Radio Okapi.
Le journal d'Aden Pongo Massimango.
Bonjour, l'affaire des vaches du Congo et du Kwilu. Au cœur d'une table ronde aujourd'hui au Palais du Peuple à Kinshasa, une rencontre pour dissiper les malentendus sur leur présence. Vous suivez le président de l'Assemblée nationale, Obaminako, qui a annoncé la nouvelle à l'ouverture de la session de mars. Élection RDC, les tractations se poursuivent dans les états-majors politiques. L'UDPS, l'UMNC et l'UNC s'engagent à unir leurs efforts au sein d'un front commun pour la tenue effective des scrutins en décembre. Nous parlerons également du processus électoral en RDC avec l'ambassadeur du Royaume-Uni à Kinshasa. Son pays débloque en effet 9,2 millions de dollars américains de soutien à ce processus. John Merton est notre invité dans la seconde partie de ce journal. Avant d'aller plus loin, sachez qu'un peu plus d'une semaine après la rencontre entre le président Joseph Kabila et le représentant des principales compagnies minières opérant en RDC, cette d'entre elles décide de quitter la FEC. Dans un communiqué publié hier et signé notamment par Randgold, AngloGold Ashanti, Glencore, Ivanhoe Mining, China Molybdenum Company, ces entreprises affirment ne pas être représentées de manière adéquate par la Fédération des entreprises du Congo, présidée par Albert Yuma. En termes clairs, elles pensent que la FEC ne défend pas assez leurs intérêts. L'annonce intervient alors que ces compagnies se sont vues signifier le mois dernier une prochaine renégociation de leur partenariat avec la GECAMINE, la société d'État dirigée par le numéro 1 de la FEC. L'affaire des vaches qui a suscité beaucoup de remous au sein de l'opinion s'invite à l'Assemblée nationale de la rentrée parlementaire hier jeudi à Kinshasa. Le président de la Chambre basse du Parlement a annoncé dans son discours d'ouverture la tenue d'une table ronde à ce sujet. Elle se tient aujourd'hui au Palais du Peuple. Objectif, dissiper tout malentendu sur cette présence massive des vaches dans les provinces du Kwango et du Kwilu, indique Obaminako, que je vous invite à suivre.
Le bureau de l'Assemblée nationale organise une table ronde pour gérer certains malentendus enregistrés pendant les vacances parlementaires concernant quelques cheptels de bovidés amenés de l'est vers le sud et l'ouest du pays par certains compatriotes et qui ont suscité ici et là des débats et des préoccupations. Cette table ronde réunira les principaux acteurs de la question, à savoir les élus nationaux des provinces concernées, quelques membres du gouvernement, les autorités locales, les commerçants et les éleveurs, ainsi que quelques représentants de la société civile. Je veux bien qu'à l'avenir, il soit toujours ainsi pour toute autre circonstance ou autre incompréhension qui pourrait nous amener à piétiner ce que j'appelle l'essence de la nation congolaise, l'essence de notre patrie, à savoir l'unité nationale.
Dans son discours d'ouverture de la session de mars au Parlement, le président de l'Assemblée nationale a également invité les députés à ne pas se focaliser uniquement sur les enjeux électoraux, mais de s'investir aussi dans le vote de loi et le contrôle parlementaire en faveur d'autres secteurs de la vie nationale. Cependant, a-t-il souligné, le vote de la loi sur la répartition des sièges, l'examen du rapport financier de la CENI, ainsi que le remplacement du rapporteur de la commission électorale sur demande de l'UDPS sont des matières prioritaires devant être débattues au cours de cette session. Au Sénat, le président Léon Kengoua Dondo a dressé un tableau de la situation socio-économique de la RDC. Dans son discours d'ouverture, le président du Sénat a parlé d'un bilan largement positif de 11 années de fonctionnement de son institution depuis son installation en 2007 avec le vote de plus de 250 lois. Mais s'est indigné du manque d'application des lois votées. Une vingtaine de matières à titre d'arriéré, en plus de nouvelles matières, sans oublier le contrôle parlementaire, sont à l'ordre du jour au cours de cette session. Léon Kengoua Dondo.
Nous venons de totaliser 11 ans au Sénat depuis notre investiture en 2007. Le Sénat a reçu mission de voter les lois et de contrôler les gouvernements, les établissements et les services publics. Pendant les 11 ans, notre Chambre n'a pas été en reste. En sus d'une intense activité, dans le cadre du contrôle parlementaire, elle a voté 250 lois. C'est un score louable. Aujourd'hui, nous avons la force d'affirmer que le Sénat a usé sa vocation et sa capacité à construire une vision à venir de la nation. Nous avons le devoir d'identifier les faiblesses et les causes de l'enlisement pour une recherche positive de pistes et de solutions. Dans cette optique, il n'est pas superflu de nous demander si le mal ne se situe pas au niveau de l'application des lois votées. Nous nous approchons inexorablement des échéances électorales. Le Sénat est tenu de rassembler tous les efforts pour que les contraintes relevant de sa compétence soit levé.
Un dossier réalisé par Michel Kifindangoy. Tractation en cours dans les états-majors des partis et formations politiques. L'UDPS, le MLC et l'UNC ont signé hier à Kinshasa une déclaration commune. Ces partis politiques de l'opposition s'engagent à unir leurs efforts au sein d'un front républicain et démocratique pour la tenue effective des élections en décembre 2018, tout en rejetant le recours à la machine à voter. Suivez l'extrait de leur déclaration lue par la secrétaire générale du MLC, Eva Zaïba, au micro d'Askenzi Bater.
Ils ont réaffirmé sans ambages, d'une part, leur détermination d'aller aux élections cette année, en 2018, et d'autre part, le rejet de la machine à voter à la loi sur le financement des partis politiques dont les dotations budgétaires n'ont jamais été exécutées. De ce fait, l'État devrait prendre en charge les frais de dépôt des candidatures. Au respect de l'accord de la Saint-Sylvestre dans son application intégrale, de l'engagement à continuer les contacts et échanges comme ceux commencés avec les partis lumumbistes unifiés, PALU en sigle, en vue de l'émergence d'un large front républicain et démocratique sur l'échiquier national et gagner ensemble les élections à venir.
Politique encore, l'Union pour le développement du Congo, UDECO, parti de la majorité présidentielle, refait son unité en vue des échéances électorales prochaines pour lui donner plus de chances et permettre la réconciliation de tous ses membres. L'aile dissidente disparaît avec la démission de celui qui l'a dirigé, Mbayo Kifuntui. En réaction, le secrétaire général de ce parti dit prendre acte de cette émission et on appelle à la cohésion de tous et à la paix. Emeki Lolo Musamba au téléphone de Jeff Ngoy.
J'ai pris connaissance ce matin de la démission de Monsieur Théophile Mbayo Kifuntui. Je refuse de prendre cet acte comme un aveu d'échec. Il s'agit plutôt d'un acte de courage politique qui consacre la fin des déchirements internes au sein de l'UDECO et nous interpelle tous pour travailler dans la cohésion et l'unité retrouvée derrière le leadership du président Jean-Claude Massangou. Aujourd'hui, l'UDECO commence une nouvelle ère qui lui permet de se préparer sereinement pour remporter haut la main les prochaines élections qui se profilent à l'horizon. C'est ainsi que j'en appelle à l'unité, à la cohésion, à la réconciliation entre tous les fils et filles de l'UDECO sans aucune forme de discrimination que ce soit.
Au Nord Kivu, la Lucha écrit à la Sanko. Dans cette correspondance, ce mouvement citoyen sollicite l'implication de l'évêque du diocèse de Goma, Théophile Kaboy, dans les efforts tendant à obtenir la libération de ses 5 militants et 4 autres personnes détenues à la prison de Mounzenze depuis le 21 janvier dernier pour séquestration et troubles à l'ordre public. Frédéric Bikumbi.
Dans cette lettre adressée à la Sanko, le mouvement citoyen Lucha s'est dit étonné et je cite que l'évêque de Goma, Mgr Théophile Kaboy et quelques prêtres de son diocèse soient présentés par les parquets comme étant à la base de l'arrestation et la détention prolongée des 5 militants de la Lucha et d'autres Congolais dont l'unique tort est d'avoir répondu à l'appel à manifester pacifiquement lancé par le comité laïque de coordination. D'après la Lucha, leurs avocats ont découvert dans les dossiers de justice une lettre manuscrite de l'évêque sollicitant la police pour mettre la main sur ces jeunes et un procès verbal signé par 8 prêtres reconnaissant avoir été séquestrés par ces militants. Lors de la deuxième audience au tribunal de paix de Goma, les curés de la paroisse Saint-Joseph, l'abbé Tuli Kunkiko, a déclaré à la barre n'avoir jamais été séquestré ni par les militants de la Lucha, ni par qui que ce soit d'autre. Invité pour sa part par la justice, le général de la police à Goma, Placide Nyembo, s'est fait représenter par un de ses collaborateurs pendant que le tribunal, lui, ne s'est appuyé que sur la seule dénonciation du diocèse. Pour Lucha, en s'adressant à la Senko, il sollicite l'implication de l'Église catholique pour la libération de ses 5 militants, dont Rachel et Piripili, qui risquent aujourd'hui 6 mois d'emprisonnement selon les réquisitoires du ministère public lors de la dernière audience. Goma, Freddy Bikumbi, Radio Okapi.
En Ituri, le capitaine Sarkozy Shindano, commandant du commissariat de la police de Modipela à Bounia, a été tué hier dans l'après-midi. Selon sa hiérarchie, cet officier effectuait une intervention au camp de déplacés de l'hôpital général pour sauver le ministre provincial Didi Angaika, pris en otage quelques minutes plus tôt par des déplacés de Djougou. Lorsqu'il a reçu une pierre à la tête, il en est mort peu après. Sadiq Aboubakar explique les circonstances de ce drame.
Le ministre du Travail et Prévoyance Sociale, Didier Ngaïka, s'est rendu ce jeudi dans l'après-midi au camp des déplacés avec une assistance de l'Institut National de Préparation Professionnelle, INPP, un service de son ressort. C'est en pleine distribution que certains déplacés ont dit identifier des gens qui leur sont hostiles dans la délégation du ministre. Ce dernier déclare avoir été confondu à l'un des chefs coutumiers de Djougou par ses déplacés, ce qui a fait monter la tension d'un cran. Le ministre et sa suite ont été pris en otage par la foule. C'est à ce moment que le capitaine Sarkozy et d'autres policiers ont été dépêchés par les commandants ville pour les sauver. Ils ont fait usage de tirs en l'air et de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Pendant l'évacuation du ministre, un inconnu lui a lancé une grosse pierre. Elle a plutôt fini sur Sarkozy qui est mort quelques minutes après. Cette nouvelle a plongé dans les mois plusieurs hommes des troupes et une bonne partie de la ville qui a été commandée dans le passé par cet officier. Bounia Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
La chef de la MONUSCO a entamé hier une visite de 2 jours dans la région du Kasaï. À peine arrivée à Kananga dans la matinée, Leila Zerougui s'est rendue à Chikapa où elle a rencontré le gouverneur du Kasaï, des représentants de la société civile, des humanitaires et des responsables locaux de la MONUSCO. Après son entretien avec le gouverneur Manyanga, Leila Zerougui a expliqué la raison pour laquelle elle a effectué sa première visite à l'intérieur du pays dans le Kasaï. Ses propos sont recueillis par Joël Boufengo.
J'ai commencé par la province de Kasaï parce que votre province était au cœur de violences inouïes qui se sont déroulées ici. On a 1 million de déplacés, donc c'est quand même des conséquences dramatiques de la crise sécuritaire et humanitaire dans cette province. Je suis là aussi parce qu'il y a eu beaucoup de déplacements, des populations qui sont de retour, d'autres qui ne sont pas encore rentrées. Il y a eu des personnes tuées, des personnes blessées, des femmes violées, il y a eu beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que je suis là. J'ai rencontré les autorités en premier parce que d'abord je suis leur invitée, mais aussi pour m'assurer qu'on fait ce qu'on peut et on essaye de travailler ensemble avec les autorités pour faire en sorte que cette crise sera contenue et qu'on ramène la paix, la stabilité dans cette province des Kasaï.
À son retour à Kananga hier après-midi, Leila Zerougui a rencontré l'archevêque Marcel Madila avec qui elle a discuté de la situation dans la région. Elle a également rencontré des représentants de la société civile et des humanitaires. Ce vendredi, elle se rendra à Mbujimayi avant de regagner Kinshasa. La RDC enregistre plus de 35 millions d'abonnés téléphoniques, 13 millions d'utilisateurs d'Internet et environ 9 millions de ceux qui recourent à la monnaie mobile. Cependant, les droits de ces consommateurs, notamment des plus jeunes, ne sont pas protégés, comme sous les cas sous d'autres cieux. C'est ce qu'affirme Maître Kojo Kuma, avocat à la cour de Kinshasa Matete. Il a dit hier jeudi à Kinshasa, à l'occasion de la journée internationale de droits des consommateurs célébrée cette année, sous le thème « Rendre les marchés du numérique plus équitables ». Les propos de l'avocat recueillis par Honoré Missinga.
Nous avons 35 millions d'abonnés, 13 millions sur l'Internet, mais il n'y a pas de contrôle parental. Ça veut dire qu'on doit regarder également la vulnérabilité des consommateurs les plus jeunes. Quand nous les exposons à des informations pornographiques, par exemple, quand vous achetez un abonnement de CanalSat, il vous est mis la possibilité de faire un contrôle parental. Dans d'autres pays, pour protéger les consommateurs les plus jeunes, on crée des systèmes de protection pour que les services numériques de l'Internet ne puissent pas entamer leur jugement ou même leur façon de pouvoir penser. Ce qui fait que sur tout téléphone vendu à l'étranger, vous avez un système de code parental qui peut bloquer les contenus violents ou les contenus pornographiques pour les enfants.
5 années après son installation à RDC avec un investissement de plus d'1 milliard de dollars américains, Orange RDC a fait réaliser une étude pour mesurer son impact sur l'économie congolaise. Il ressort du résultat de cette étude présentée hier à la presse à Kinshasa que la contribution d'Orange RDC et de son écosystème représente 1,6% du produit intérieur brut congolais. Cela se mesure par plus de 300 000 emplois directs et indirects compris. Cependant, le président d'Orange pour Afrique et le Moyen-Orient relève quelques soucis liés notamment à la fiscalité. Bruno Metley explique au micro de Daniel Tambinzoni.
Il y a ce qui peut favoriser et accélérer le développement et l'investissement. Et c'est vrai de ce point de vue qu'on est dans un pays dans lequel la compétition entre les opérateurs est loyale, mais nous avons un niveau de taxe qui est très élevé. Alors je veux dire là-dessus à la population que notre demande n'est pas de baisser le niveau d'impôt qu'on paye. Il est normal de payer des impôts quand on est une grande compagnie. Nous demandons simplement à ce que l'impôt soit intelligent, c'est-à-dire qu'il favorise le développement de notre activité et qu'ensuite, ça va à l'État, qu'il ne freine pas le développement de l'activité. Je voudrais vous donner un exemple. Je prends l'exemple des smartphones, par exemple. Vous avez des droits de douane qui sont très élevés. Résultat des courses, très peu de smartphones rentrent dans ce pays de manière légale. D'autres pays d'Afrique ont des taux beaucoup plus bas de smartphones. Résultat, les smartphones rentrent par les voies normales et ils sont de meilleure qualité. Mais les autorités, à la fin, perçoivent plus de droits de douane qu'avec des taux prohibitifs qui consistent à contourner le système. Donc c'est le genre de débat qu'on a avec les autorités. On veut les convaincre qu'avec une fiscalité plus pertinente, moins lourde en termes de taux, ils vont permettre le développement et à l'arrivée de bénéficier d'un montant d'impôt supérieur à celui qu'ils ont aujourd'hui.
Actualité Afrique Monde.
Amnesty International presse le Nigeria d'ouvrir une enquête sur 89 déversements d'hydrocarbures qui ont eu lieu dans la région pétrolière du Delta, Luanje et Shell, et nie d'avoir dissimulé des causes de la pollution. Dans un rapport publié aujourd'hui, Amnesty assure que dans les cas de 89 fuites, la pollution pourrait davantage être due à la mauvaise maintenance des infrastructures et à la corrosion des oléoducs qu'à des actes de vandalisme. L'affaire de l'ex-espion empoisonné en Angleterre prend des allures de confrontation Est-Ouest, les alliés occidentaux désignant en cœur Moscou et Washington, adoptant en plus des sanctions pour ingérence dans l'élection présidentielle américaine de 2016. La première ministre britannique, Theresa May, a vanté hier l'unité des alliés de Londres face à la Russie.